Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Jean-Pierre Diaoué, porte-parole du PALIKA, chef de la délégation unie pour les négociations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie et signataire de l'accord de Bougival. Jean-Pierre Diaoué, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter notre invitation. Alors, vous avez signé l'accord de Bougival et vous assumez votre signature. Mais pour vous, c'est avant tout un compromis politique plus qu'un accord. C'est ce que vous avez eu l'occasion de dire. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence?
Oui, un compromis politique parce que nous avons... C'est difficile de parvenir à un accord, vraiment un accord, avec des délégations qui sont pour... une partie pour l'accession du pays à la pleine souveraineté et une autre partie pour le maintien de l'Académie dans la France. Donc, il faut essayer de trouver un chemin qui, disons, une position médiane entre les deux. Et donc, nous avons tous ensemble choisi d'aller vers l'option d'une souveraineté partagée encore plus avec la France. Donc, on dit, voilà, c'est ça le compromis qu'on a trouvé. Donc, c'est l'engagement des uns et des autres pour aller dans ce sens-là, d'une souveraineté partagée encore plus. C'est une souveraineté partagée avec la France, c'est déjà prévu dans l'accord de Nouméa.
C'est un pas supplémentaire par rapport à l'accord de Nouméa.
Mais c'est un pas supplémentaire, on va encore plus loin avec l'accord de Bougival.
Alors l'ensemble des partenaires s'est engagé à présenter et à défendre le texte en l'état. On parle également de pari de la confiance. C'est un terme important, ça. Il faut que les signataires se fassent confiance
entre
eux.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est un important terme. On a parlé l'accord de Nouméa de pari de l'intelligence. Aujourd'hui, on parle du pari de la confiance. C'est une suite. Mais le pari de la confiance, la confiance, c'est le résultat du respect de la parole donnée par les uns et les autres. Donc, nous, on s'est tous engagés à venir, à présenter le projet, à l'expliquer à nos populations. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc il faut, ensuite, dans la mise en œuvre de l'accord, il faut respecter la parole donnée. C'est important. Pour avoir la confiance, il faut le respect de la parole donnée.
Alors on va revenir sur quelques points essentiels de cet accord, sur son architecture, mais tout de même, tout de suite, puisque vous parlez de la confiance, est-ce que vous avez compris l'attitude de l'Union calédonienne ? Il siégeait dans la délégation FLNKS, le FLNKS va réunir son congrès demain, mais l'Union calédonienne a déjà... rejeter cet accord alors que ses signataires ont apposé leur signature. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous ?
Ben, je veux dire qu'on est dans les signataires se sont engagés par leur signature à revenir au pays et à présenter le projet, l'accord à la population, à le défendre en l'état. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et je pense que les militants, ils ont rejeté l'accord. Donc... voilà, c'est le résultat. Est-ce qu'ils l'ont expliqué ? Je pense qu'ils l'ont expliqué. Pourquoi on est arrivé là ? C'est un compromis. Je veux dire, quand on est tout seul, si on devait négocier, nous, le peuple colonisé de ce pays, avec le colonisateur, peut-être les choses auraient été beaucoup plus faciles de parvenir à un accord qui va exactement dans le sens de ce que l'on souhaite. Mais nous, nous sommes là, on n'est pas tout seul, on est... avec des non-indépendantistes. Et les non-indépendantistes, ils sont aussi des citoyens, parce qu'on a décidé, à un moment, c'est une parole donnée à un moment donné, Nainville-les-Roches, l'accord de Matignon, l'accord de Nouméa, où on a décidé qu'il y ait des citoyens de ce pays. Et bien, c'est avec eux qu'on va construire. Bien, quand on arrive à ça, où il faut tenir compte des uns et des autres, c'est difficile de parvenir à un accord qui nous convient exactement comme on veut. Parce qu'il faut... on arrive à un moment où il faut faire... C'est là le compromis.
C'est des concessions qui ont été faites de part et d'autre.
Tout à fait, c'est ça.
Mais les signataires UC, quand ils l'ont signé, ils l'ont accepté. Vous comprenez que maintenant, si leur base le rejette, ils disent ben, on peut pas aller plus loin et on se retire de cet accord. C'est ce qui était prévu à l'origine, que des signataires puissent retirer leur engagement ?
Ben non. Non, à l'origine, quand tout le monde, en signant, on s'est engagé à venir le présenter et l'expliquer. On l'explique, et après, une fois qu'on l'a expliqué, le projet va être soumis à l'approbation des Calédoniens. Donc c'est prévu. Donc c'est d'ici le mois de février, le projet sera soumis aux Calédoniens. Et les Calédoniens diront à ce moment-là, nous on a expliqué. on a assumé notre engagement, on a assumé notre signature. Mais quand on explique à nos militants, il y a des militants qui posent des questions, ça suscite beaucoup d'interrogations de la part de nos militants. Et il y a certains d'entre eux qui sont sceptiques, c'est-à-dire qu'ils sont réservés sur un certain nombre de choses. Donc il faut poser là, il faut expliquer. Et ensuite, tu arrives à un moment donné, ben on le soumet pour être approuvé par la population calédonienne.
Il aurait fallu attendre février. Donc, au Palika, d'ailleurs, on vous fait des reproches. Il y en a qui vous disent que vous n'auriez pas dû signer cet accord.
Pour ceux qui... Bah, tous les militants qu'on a rencontrés partout où on est allé, nous, on a été mandatés pour aller négocier, pour obtenir un accord. Donc, c'est ce que nous avons fait. Je crois qu'il y a aussi cette confiance entre nous qui est importante aussi. Nous, on nous a fait confiance et on a tout fait pour mériter la confiance de nos militants.
Alors, à part l'UPM et peut-être le RDO, on va le savoir bientôt, on a l'impression que toutes les autres composantes indépendantistes rejettent le projet d'accord. On attend le congrès du FLNKS, c'est demain samedi. Le Palika ne va pas y participer. Hein.
Le Palika ne participera pas à ce congrès. Non.
Quelle est votre position exactement aujourd'hui à l'égard du FLNKS? Vous étiez mis en retrait, notamment après les événements du 13 mai, les déclarations qui ont suivi.
Oui.
Et aujourd'hui, vous en êtes parti complètement, vous en êtes plus membre du tout.
Nous, la décision prise par notre dernier congrès qui s'est tenu dernièrement à Calagomène, c'est de dire on se met en retrait. Aujourd'hui, on se met en retrait. On ne participe plus aux réunions du FLNKS, du bureau politique du FLNKS. Ça ne nous empêche pas d'entretenir des relations, de continuer à discuter avec les responsables de l'Union calédonienne, avec les responsables du FLNKS. C'est ce qu'on a fait. Pendant notre durée de séjour au Bougival, nous avons tenu des réunions entre nous avec la délégation du FLNKS et avec la délégation unie entre nous. On a tenu des réunions. Donc on continue à maintenir le dialogue entre nous. Mais on ne participera pas au congrès du FLNKS ce week-end.
Et selon vous, quelle est la position que va prendre le FLNKS? On imagine, on pressent qu'ils vont rejeter l'accord de Bougival, c'est ce que vous pensez, vous aussi?
Je veux dire, si les signataires arrivent à bien expliquer les choses, pour dire un petit peu ce que je dis là, je dis qu'on ne peut pas arriver à un accord qui convient à tout le monde. L'accord de Matignon, il a été contesté. Et celui qui a signé l'accord de Matignon, ben on sait ce qui lui est arrivé. L'accord de Nouméa, il a été également contesté. Est-ce qu'on peut s'imaginer, juste un moment, que l'on peut arriver à trouver un accord qui convienne à tout le monde, comme ça, d'un seul coup? Quand on sait que dans ce pays, eh bien, la situation créée depuis la prise de possession de cette terre par la France... Ben, la situation créée, c'est quoi? C'est un peuple de Nouvelle-Calédonie qui a été divisé, qui est divisé depuis jusqu'à maintenant. Et quand on est divisé, est-ce qu'on peut, dans la volonté de rechercher une solution, est-ce qu'on peut arriver tout de suite, immédiatement, à trouver une solution qui convienne à tout le monde? Non, c'est difficile. La preuve, c'est que l'accord de Matignon et l'accord de Nouméa, ils ont été contestés. Et pourtant, aujourd'hui, quand on parle de l'accord de Bougival, on dit, et tout le monde dit, que l'accord de Nouméa, c'est le plancher. Mais maintenant, on dit que l'accord de Nouméa, c'est un bon accord. Mais au moment où l'accord de Nouméa est arrivé, il y en a qui ont qualifié l'accord de Nouméa, ils ont trouvé des qualificatifs pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord. Et maintenant, tout le monde dit que c'est un bon accord. Mais oui, c'est un accord, mais tout ce que tu veux obtenir, ben, c'est pas sur le papier, c'est ensuite dans ton engagement, dans la mise en œuvre de l'accord. C'est ça qui est important.
Mais alors, tout de même, si le FLNKS, c'est pas encore fait, on attend leur congrès, si le FLNKS ne valide pas l'accord de Bougival, est-ce que le processus va pouvoir se poursuivre normalement? Est-ce que l'État va suivre, va le mettre en œuvre, réunir le comité de rédaction, faire tout le processus législatif?
Je crois que jusque-là, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a le FLNKS ou l'Union calédonienne disent qu'il y a besoin d'éclaircir un certain nombre de sujets. Mais je dis, on a une opportunité qui est devant nous. Le ministre nous dit que le comité de rédaction arrive d'ici le mois d'août, la quinzaine d'août. Et donc c'est l'opportunité qui nous est donnée pour revenir autour de la table, pour que les uns et les autres puissent venir éclaircir, faire en sorte à ce que l'on apporte des précisions, davantage de précisions. Et notamment sur la question de l'identité kanak, pour certains qui disent qu'il n'est pas assez question dans cette... peut-être s'il y a besoin de repréciser des choses, c'est à ce moment-là qu'il faut préciser les choses. Et donc, moi j'invite tous les partenaires signataires de revenir autour de la table, autour du ministre et du comité de rédaction, pour poursuivre ce travail, rédiger ce qu'il faut rédiger, le contenu de la révision constitutionnelle, la loi organique spéciale et la loi fondamentale. Il y a des choses importantes à mettre dans ces différents sujets. Donc, il faut notre présence. Moi, je pense que c'est important.
Et ça pourrait être l'occasion d'éclaircir les choses avec l'Union calédonienne si leurs signataires viennent participer à ce comité de rédaction.
Oui, tout à fait, c'est ça. Tout n'est pas perdu. Je pense qu'on a encore cette possibilité-là. Si vraiment, on a compte tenu de la situation de notre pays, si on a vraiment besoin de parvenir à quelque chose pour notre pays, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour l'avenir de notre pays, eh bien, il faut tout faire pour que cet accord aboutisse, pour que ça aille plus loin, que ça arrive à son terme.
On n'a pas encore de précision sur l'endroit où doit se réunir ce comité de rédaction, la date, c'est pas encore précisé. Hein.
C'est pas encore précisé, on a des informations comme quoi ce sera après le 15 août.
Alors on entend quand même les critiques de l'UC et d'un certain nombre de responsables ou militants indépendantistes. L'UC dit que Bougival est un leurre de souveraineté permettant le maintien de la Nouvelle-Calédonie française. Vous, c'est pas l'analyse que vous faites. Hein.
C'est pas l'analyse qu'on fait, c'est un pas de plus. L'indépendance immédiate, c'est pas possible, dans la mesure où le président de la République le dit lui-même, l'expression démocratique, il y a eu la démocratie, elle s'est exprimée, il faut la respecter. Nous sommes pour, dans le projet du FLNKS qu'on a défendu depuis les tournées pour la première consultation, le projet du FLNKS, c'est un État de la République de Kanaky, souverain, un État multiculturel et un État démocratique. Donc on respecte la démocratie. Donc la démocratie s'est exprimée, il faut respecter. Maintenant, il faut trouver une autre voie pour aller plus loin, et toujours dans le sens d'une trajectoire qui peut permettre au pays d'accéder à la pleine souveraineté, mais cette fois-ci, pas par oui ou par non, où on pose des questions, c'est dans le travail que l'on va faire ensemble, et dont le dispositif qui est ici, l'accord de Bougival, nous permet, avec les marqueurs de souveraineté, que l'État de la Nouvelle-Calédonie, c'est un État qui est inscrit dans l'ensemble national, mais qui pourra être reconnu par la communauté internationale. Mais pour être reconnu par la communauté internationale, qu'est-ce qu'il faut faire? L'État s'engage à faire en sorte à ce que l'État de la Nouvelle-Calédonie soit reconnu, mais il y a aussi le travail qu'on doit faire, nous, en tant que Calédoniens, et cette compétence, s'il est retrocédée à la Nouvelle-Calédonie, c'est au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'entreprendre les démarches auprès déjà de nos pays voisins, États voisins, ce sont des démarches à faire pour que notre pays soit reconnu. Donc c'est l'État, c'est un État qui peut être reconnu, et la loi fondamentale pourra dire quel sera le nom de ce pays et quel sera le drapeau de ce pays. Ce sont des chantiers qu'il faut ouvrir, qu'il faut mener pour terminer ce qui est prévu dans l'accord de Nouméa. Ensuite, il y a la nationalité.
C'est un État au sein de l'ensemble français, un État sui generis. Ça vous satisfait quand même? Vous n'avez pas l'impression que c'est un faux État, que c'est un peu cosmétique, que c'est sur le papier, on dit État, mais on aurait pu dire collectivité ou dire autre chose? Il n'y a pas les attributs de souveraineté encore dans cet État.
Il n'y a pas les attributs de souveraineté. Il y a des compétences qui sont exercées. Il y a déjà des compétences. C'était jusqu'ici, on dit, c'est la Nouvelle-Calédonie, il a des compétences. Ces compétences de la Nouvelle-Calédonie sont maintenues. Aujourd'hui, ces compétences de la nouvelle que exerce la Nouvelle-Calédonie, les partage avec la France, dans le cadre d'une souveraineté partagée, exemple de l'enseignement. Mais aujourd'hui, on a une autre souveraineté qui nous est, une autre compétence qui relève d'une compétence régalienne qui est les relations extérieures, qui est donnée à la Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas une mince affaire. Donc, oui, on peut dire que c'est une souveraineté de façade ou c'est un marqueur de... Mais c'est un État. Et c'est pour que cet État de la Nouvelle-Calédonie inscrit dans l'ensemble français soit reconnu sur le plan international par la communauté internationale, il y a un travail à faire. Et si on avance bien, si ce travail il est fait par les Calédoniens qui auront cette responsabilité, eh bien, à un moment donné, on peut être reconnu par l'Organisation des Nations Unies, comme quoi, petit à petit, c'est un statut qui est évolutif. Tout ne peut pas tomber d'un coup. C'est évolutif. On s'inscrit dans une démarche qui nous mène vers... En tout cas, pour nous, les indépendantistes, c'est une trajectoire. Pour nous, Palika, c'est une trajectoire qui doit nous mener vers une souveraineté partagée avec la France.
L'autre marqueur important, c'est la création d'une nationalité. Mais là aussi, c'est une double nationalité indissociable de la nationalité française. C'est vraiment une avancée. Ou là aussi, est-ce que ce n'est pas un autre nom donné à la citoyenneté calédonienne qui existe depuis 1998?
Une citoyenneté calédonienne, c'est ça. L'accord de Nouméa dit qu'on doit parvenir, après un référendum, transformer la citoyenneté en nationalité. L'accord de Nouméa, on n'est pas arrivé à ça après le référendum. Aujourd'hui, l'accord de Nouméa, l'accord de Bougival nous dit on a cette nationalité. La citoyenneté devient aujourd'hui une nationalité. Il faut mettre en place les conditions pour accéder à cette citoyenneté. Ça, c'est le travail qui sera fait par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie après les nouveaux élus. Mais certains disent ça. Ils qualifient que c'est un marqueur de souveraineté qui, c'est un peu camouflé. Mais celui qui, à partir de 2031, les élections provinciales prévues en 2031, ce seront ceux qui auront la nationalité calédonienne qui participeront à ces élections aux assemblées de province et du Congrès. Donc c'est pas rien.
Les partisans de la France, de leur côté, se félicitent notamment d'un accord pérenne, qu'il n'y ait plus de référendum d'autodétermination comme ce qu'on a vécu pour la sortie de l'accord de Nouméa. Ça ne vous dérange pas, vous, qu'il n'y ait pas une date précise à laquelle les Calédoniens pourront choisir la souveraineté ou non ?
Nous avons, dans notre état d'esprit, quand nous sommes allés à la délégation unie à cette énième séquence à Paris, c'était aussi l'option qu'on a choisie, de voir si on peut s'entendre maintenant. On s'entend sur là où on veut aller, et puis au terme là-bas, eh bien, on décide, mais en fonction de ce qu'on a décidé maintenant. L'accord de Nouméa, on s'entend, il y a une période de transition, il y a une période de préparation, et au terme là-bas, c'est là où on décide, oui ou non, on accède à la pleine souveraineté. Nous, voilà, c'est un peu un raisonnement différent. Mais il y a tout de même un processus de déclenchement qui permet d'accéder à la pleine souveraineté. Mais là, c'est progressif. On dit, ça peut être une résolution pour la rétrocession d'une compétence, ça peut être deux compétences, mais toujours en fonction de la possibilité que nous avons. Mais je veux dire, c'est dans le cadre du travail, c'est quelque chose qui est évolutif. Si on arrive, alors c'est peut-être qui fait qu'un certain nombre de nos militants disent qu'ils sont sceptiques, parce que c'est dans l'engagement des uns et des autres, aussi bien que du côté de chez nous, indépendantistes, que du côté non-indépendantistes, il faut que l'on s'engage vraiment dans quelque chose, pour parvenir à quelque chose. Sinon, si on ne joue pas pleinement les choses, si on ne joue pas, si on ne met pas vraiment carte sur table, d'ici demain, on récoltera ensemble ce que l'on a semé.
Justement, concernant le transfert des compétences régaliennes, il est possible, effectivement, l'UC, encore elle, parle de verrou infranchissable, parce qu'il y a effectivement plusieurs dispositifs. Il faut une majorité très qualifiée au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il faut l'accord de l'État, il faut que assumer cette compétence soit possible, et il faut ensuite que les Calédoniens acceptent le transfert. Vous pensez que vous arriverez à surmonter tous ces verrous si vous souhaitez le transfert de certaines compétences régaliennes ?
On ne peut pas s'engager dans quelque chose si on n'a pas confiance. Et si on n'a pas confiance en nous-mêmes, d'abord, notre capacité d'aller de l'avant. Quand tu vois les résultats des législatives, et tu vois qu'il y a eu une différence entre les indépendantistes et les non-indépendantistes, tu dis qu'il y a une possibilité quelque part. Parce que la différence, c'est l'augmentation des sièges pour la province sud. Mais en province sud, il y a aussi des indépendantistes qui sont là. Il y a 52% de la population de la province sud qui est kanak. Et donc, si les gens se mobilisent, si on se donne les moyens d'eux, ben nous, nous disons que c'est possible. Nous avons pu, lors de ces dernières années, nous sommes parvenus à faire une coalition avec des formations politiques du Congrès pour trouver une majorité pour pouvoir mettre en place Louis Mapou à la tête du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Avec l'éveil océanien.
Avec l'éveil océanien.
Avec Calédonie ensemble.
Calédonie ensemble. Donc, les choses, c'est possible. Il faut qu'on crée les conditions qu'il faut. Et donc, c'est ça, ce que je disais tout à l'heure. C'est la confiance, il faut créer cette confiance. Cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté de travailler, pas pour soi, mais pour le pays. Et on a la possibilité de parvenir à cela. Et donc, après, il faut avoir confiance en soi. C'est pas, je veux dire, l'indépendance, on ne peut pas l'avoir sur le papier. C'est en fonction du travail que l'on fait sur le terrain. Donc il faut avoir aussi la confiance en nous. On ne peut pas attendre quelque chose qui tombe du ciel. Il faut donner du sien.
Mais en plus, ce transfert des compétences régaliennes, celles qui restent, oui, puisque les relations extérieures sont transférées par l'accord de Bougival, vous voulez demander le transfert? C'est quelque chose qui vous intéresse d'avoir le contrôle de ces compétences régaliennes, ou vous voulez les récupérer pour les rétrocéder après à la France ou à quelqu'un d'autre?
La pleine souveraineté, c'est lorsque toutes les compétences régaliennes sont rétrocédées à la Nouvelle-Calédonie devient un pays souverain. Il n'y a pas de pays indépendant dans le monde. On dépend toujours de quelqu'un, mais on est souverain parce que les compétences régaliennes nous appartiennent. Et donc on peut, nous on le dit, et c'est l'option que l'on défend depuis, on peut demander, si cette confiance, parce qu'on a travaillé ensemble à la stabilisation du pays, à la reconstruction du pays, à faire en sorte à ce que tout le monde retrouve la confiance, eh bien, on peut demander à ce que les compétences régaliennes reviennent à la Calédonie et ensuite que l'on transfère à la France, pour les déléguer à la France pour qu'elle les exerce. Parce qu'il faut se dire une chose, il y a certaines compétences, certainement qui peuvent être exercées par la Nouvelle-Calédonie, mais il y a d'autres qui, compte tenu de l'étroitesse de notre territoire, eh bien, il y a des compétences qu'on ne pourra peut-être pas. Si on veut sauvegarder notre pays, eh bien, la défense, par exemple, s'il faut surveiller la zone économique exclusive, qui est une zone aussi grande que l'Hexagone, il faut avoir les moyens d'eux. Donc, c'est peut-être si on réfléchit bien, c'est peut-être une compétence qui peut être rétrocédée, transférée, déléguée à la France pour qu'elle exerce à la place de la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable.
Alors, parmi les autres aspects de l'accord de Bougival, il y a l'ouverture du corps électoral. Ça avait été un point de blocage pendant des années. Là, on arrive à un corps glissant de 15 ans pour les élections de 2026 et de 10 ans, en principe, à partir de 2031. Vous êtes favorable à cette ouverture. De toute façon, le PALUCA était plus souple sur l'ouverture du corps électoral. Ça vous paraît acceptable?
La position du FNLKS, pendant les premières, en 2023, quand on a commencé à discuter avec Darmanin, la durée de résidence sur laquelle on était d'accord, enfin, c'est la proposition que nous faisons, c'était 10 ans de résidence. Les non-indépendantistes ont parlé d'une durée de résidence de 3 ans. Et le ministre, à l'époque, a proposé une durée de résidence de 7 ans. Aujourd'hui, la durée de résidence, c'est de 15 ans. Et les prochaines, pour approuver l'accord, ce qui est prévu, c'est que ce sont ceux qui sont admis sur la liste électorale de consultation, spéciale de consultation, de 2021. Ceux-là se prononcent, ils seront consultés pour l'approbation de l'accord. Au moment des élections de 2026, c'est les électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale de consultation, plus les électeurs inscrits sur la liste spéciale provinciale, plus les 12 000 natifs, et plus 5 900 personnes qui ont 10 ans, 15 ans de résidence ici en Nouvelle-Calédonie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont arrivés après 2010 ici en Nouvelle-Calédonie, ben ceux-là ne pourront pas participer. Donc la restriction, elle est toujours là.
C'est indispensable qu'il y ait une restriction du corps électoral, mais le fait de l'ouvrir progressivement, ce n'est pas quelque chose qui vous inquiète. On sait que l'Union calédonienne est crispée sur cette question en estimant qu'on veut noyer le peuple kanak avec les nouveaux arrivants.
Je dis, si on s'inscrit dans cette démarche où on veut construire le pays tous ensemble demain, le pays qui sera là demain, si on arrive à faire en sorte à ce que les compétences régaliennes reviennent petit à petit à la Nouvelle-Calédonie, demain, je veux dire, le jour où le pays accède à une pleine émancipation, on ne parlera plus d'indépendance ou de non-indépendantisme ou de non-indépendantisme. On parlera de Calédoniens. Mais dans ce peuple de Nouvelle-Calédonie, eh ben, il y a le peuple, il y a les Kanaks. Ils conserveront leur langue, leurs coutumes. Il y a les Wallisiens, les Futuniens, les Tahitiens, tous les autres composantes de la population calédonienne conserveront leur identité. Mais quand on parle de peuple de Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas une question d'assimilation. Non, on respecte les spécificités des uns et des autres. Mais on essaie de, depuis tout ce temps, on essaie de trouver, de créer, parce que c'est une nécessité de créer le peuple de ce pays.
Le peuple calédonien, c'est une notion qui est refusée souvent par les uns et par les autres, d'ailleurs pour des raisons différentes. L'Union calédonienne, encore elle, estime que le peuple kanak n'existe plus dans l'accord de Bougival, alors qu'il était au cœur de l'accord de Nouméa. Comment ça se fait que le mot kanak, effectivement, n'apparaisse pas dans l'accord de Bougival?
Ah, c'est peut-être des gens qui n'ont pas lu, mais dans l'accord de Bougival, dans ce qui sert de préambule, on dit bien que l'accord de Nouméa reconfirme la pleine reconnaissance de l'identité kanak et que ce sont deux accords historiques qui sont maintenus dans l'accord de Bougival. L'accord de Bougival n'enterre pas l'accord de Nouméa, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le préambule de l'accord de Nouméa, qui est un acte fondateur, demeure. Ça demeure en vigueur.
Vous avez aussi accepté des compétences supplémentaires pour les provinces. Alors on parlait de l'augmentation des sièges de la province sud, du rééquilibrage du Congrès. Vous nous avez dit ce que vous en pensiez. Les compétences supplémentaires pour les provinces, notamment la compétence fiscale. Est-ce que, alors là, je parle aussi à l'élu de la province nord que vous êtes, ça ne vous dérange pas ça? Écoutez, Est-ce que la province sud ne va pas être favorisée outrageusement?
Écoutez, nous, ce que nous avons dit, et c'est vraiment le point sur lequel nous avons insisté pendant la négociation à Bougival, c'est de dire que la question de la solidarité doit rester quelque chose d'un élément important. Donc la question de la solidarité reste. Et donc on verra, on précisera dans le comité de rédaction, on précisera quelles sont les compétences en matière de compétences fiscales aux provinces, quelles sont les compétences, les possibilités qu'ont les provinces. Parce que s'il faut maintenir cette solidarité, ça veut dire qu'il y a des taxes, il y a des impôts qui sont déjà prélevés par les services de la Nouvelle-Calédonie et qui rentrent dans un pot commun et qui ensuite font l'objet de répartition entre les... C'est ça. On joue sur la solidarité à partir de là. Et ensuite, maintenant, si les provinces, on leur donne de nouvelles compétences pour pouvoir créer de nouvelles taxes, eh bien, ça, c'est... Voilà. C'est cette possibilité-là qui est ouverte. Donc, pourquoi pas? La province nord pourra, dans la mesure du possible, dans ses possibilités, voir ce qui peut être fait. Je signale en passant comme ça que je dis aujourd'hui par rapport à ce que vous dites, Nouméa, elle est là, elle demeure quand même aujourd'hui le poumon de l'économie calédonienne. Mais au départ, tout au début, Nouméa s'est construite autour de l'usine de Doniambo. Là, c'était un petit peu, disons, à l'époque, à une certaine époque, c'était le fer de lance de l'économie calédonienne, mais qui transformait le minerai qui vient du Nord. Mais la solidarité a toujours joué dans ce pays. Il ne faut pas qu'à un moment donné, cette solidarité disparaisse. Non, il faut continuer à jouer cette solidarité, parce que c'est comme ça que le pays s'est construit. Donc maintenant, si on veut créer de nouvelles choses, bah, c'est la possibilité qui nous est donnée par cet accord.
Vous parlez du nickel. Alors, on a beaucoup dit que la partie économique était un peu rapide dans l'accord de Bougival. C'est pas, ce que vous avez travaillé le plus, hein, vous avez surtout travaillé sur l'institutionnel. Qu'est-ce que vous attendez sur ce plan-là, et notamment sur le plan du nickel? Est-ce que vous pensez que l'État va donner les moyens à la Calédonie de relancer la filière nickel, et est-ce que ce n'est pas vital?
Oui, tout à fait. Il y a des engagements de l'État. Bon, pour le moment, c'est sur papier. Le président de la République a annoncé publiquement ici, lors de ses interventions, que la France aiderait la Nouvelle-Calédonie à la construction d'une unité de production d'énergie à moindre coût, décarboné. C'est ça. C'est exactement ça. Parce que le coût de l'énergie ici participe à la... C'est ça qui impacte la rentabilité de nos usines ici en Nouvelle-Calédonie. C'est le coût de l'énergie. Donc si on arrive à créer une unité de production d'énergie décarbonée à moindre coût, exactement c'est ce qu'il faut. Et les potentiels repreneurs, s'ils entendent cette nouvelle-là, ben, certainement qu'ils pourront plus facilement... C'est un élément déterminant pour qu'ils s'affichent pour reprendre, par exemple, l'usine KNS, l'usine du Nord. Donc c'est important. Ensuite, s'engager, comme il est dit dans le pacte, pour que le nickel calédonien participe à la souveraineté industrielle de la France et de l'Europe, c'est bien. Mais il faut le faire. Et c'est un engagement que prend l'État pour aller auprès de l'Union européenne pour dire que ben, il faut plutôt se tourner vers le nickel calédonien pour pouvoir de le payer à un prix qui est peut-être certainement moins concurrentiel que le nickel indonésien, mais c'est un engagement. C'est un engagement de la France, et il faut que la France arrive à mettre en œuvre les engagements qu'il a pris.
Sur le nickel, on parle d'une doctrine renouvelée. Alors, c'est une allusion à la doctrine nickel du Nord, dont on a beaucoup parlé pendant des années,
tout à fait.
Avec aujourd'hui une volonté apparemment commune d'exporter également, de libérer un peu les exportations de minerais.
Oui, donc la volonté, la doctrine de la convergence s'agissant du nickel, c'est de dire que on arrête d'exporter parce qu'on a affaire à une ressource qui est là et qui un jour va s'épuiser. Il y aura plus à force de l'extraire, un jour il y aura plus. Donc on essaie de faire en sorte à ce que cette ressource puisse durer le plus longtemps possible. Et donc la doctrine consiste à dire qu'il faut extraire et, dans la mesure du possible, le transformer sur place. Et quand on ne peut pas, on le transporte on exporte notre nickel vers des usines qui sont à l'extérieur, mais qui sont également qui appartiennent à la Nouvelle-Calédonie. C'est le cas de l'usine qui est en Corée. Et donc le reste qui ne peut pas être transformé, donc là c'est ce qu'on dit ici d'une doctrine renouvelée, c'est la possibilité de le faire si on veut aujourd'hui, par exemple, dans un objectif bien précis. Qui est de dire, s'il faut, pour le minerai qui ne peut pas être traité à cause de sa teneur, à cause de sa qualité, puisse être exporté, c'est pour un objectif bien précis, par exemple, pour aider à ce que des repreneurs puissent avoir les ressources qu'il faut pour pouvoir relancer, par exemple pour l'usine du Nord. Ça peut être quelque chose... Moi, je peux comprendre comme ça, dans cette mesure-là, où on peut arriver à reprendre la doctrine et faire en sorte à ce que le minerai qui n'est pas extrait, qui est mis en verse, puisse être exporté, mais dans un but bien précis. Il ne faut pas que... Et dans un temps bien déterminé.
C'est en ça que c'est renouvelé. Alors, beaucoup de choses dans cet accord ou ce projet d'accord de Bougival, des oppositions, on l'a vu. Et puis, il y a aussi tout un cheminement législatif. Ah, il y aura déjà le comité de rédaction, on en parlait tout à l'heure. Et puis après, il y a l'adoption du projet de loi, loi organique déjà pour reporter les élections. Ensuite, il y a le projet de loi constitutionnelle avec la réunion du Congrès de Versailles. Il y a la loi organique spéciale avant la consultation des Calédoniens en février 2026, étant donné la situation politique nationale. Que vous connaissez, que vous suivez. Est-ce qu'on va arriver à faire tout ça? Est-ce que l'État va arriver à maintenir ce calendrier? Ou est-ce qu'il peut y avoir là aussi des obstacles à franchir?
Oui, tout à fait. C'est une des contraintes qu'il faut prendre en compte dans ce que l'on fait aujourd'hui. Il ne faut pas perdre davantage de temps. Parce que nous faisons des choses ici. On a la possibilité de... Parce que c'est de notre responsabilité pour ce qui se passe ici dans le pays. Mais en France, dans l'Hexagone, c'est aussi l'instabilité politique là-bas. S'il y a un changement de gouvernement, Bayrou il tombe, Valls il tombe, et puis qu'est-ce qui va se passer après? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc ça aussi, c'est quelque chose, c'est une contrainte qu'il faut à laquelle il faut faire attention, il faut tenir compte de ça. Donc on ne peut pas continuer à jouer comme ça, parce que on a quand même affaire à un ministre qui a démontré sa détermination à ce que la Nouvelle-Calédonie parvienne à quelque chose, à un résultat positif pour le pays. Donc il faut y aller.
C'est le pari de la confiance. Vous êtes confiant là aujourd'hui, Jean-Pierre Diaoué, sur l'aboutissement de ce projet d'accord et de ce processus?
Je veux dire, si on veut s'engager dans la construction du pays pour notre... On a quelque chose qui nous anime tous ici dans ce pays. On a un point commun, c'est l'amour de notre pays. Si on n'a pas confiance dans ce que l'on doit faire ensemble, si on continue à se regarder en chien de faïence, on ne peut pas avancer. Non, il faut avoir la confiance. Et la confiance, comme je le disais tout à l'heure, c'est le respect de la parole qu'on a donnée.
Jean-Pierre Diaoué, chef de la délégation unie pour les négociations et pour la signature de l'accord de Bougival. Merci d'accepter votre invitation.
Merci.